Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui, hein?
Mais rien de très souvent sous le soleil. Rien de très nouveau sous le soleil.
Mais il y a un troupeau qui arrive là. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, je sais pas, mais il galope vite.
Ah non, 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 il trotte.
Ah non, il galope. Regarde la queue de cheval.
Ah non, non, non. Ah non, mais là, il est tombé. Il a perdu son élan.
Passe-moi ça. Oh, il y en a un qui a une belle crinière.
Oh, mais t'as vu les traces qu'il laisse sur le béton? Ah, oh.
Ouais.
Ah, ça va être une migration, t'as vu la fourrure.
Laisse-moi voir.
Hé, hey, fiston, viens voir, il y a une espèce rare.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Regarde, regarde.
Regarde ces drôles d'oiseaux qui sont venus là pour une migration.
Ah ouais. Et d'ailleurs, vous savez comment on appelle un oiseau qui a qu'une patte? Un migrateur.
Elle était bien bonne.
Tu crois que c'est une espèce en voie de disparition?
Bah, je sais pas, je sais pas. Eh bien, regarde lui là, il est tout gris là, avec des grandes oreilles. C'est un éléphant, non?
Ah ouais.
Mais non, tu te trompes.
Attends, faut que j'appelle ma femme pour qu'elle voie ça.
Chérie!
T'en as déjà vu des comme ça, toi?
Non, pas des comme ça. En plus, ils ont tous des plumages différents. Jamais vu. Puis regarde lui avec ses dents là. Je sais pas si c'est un crocodile ou un alligator.
Bah, toute façon, un alligator ou un crocodile, c'est carrément la même chose.
Regarde, attends, laisse-moi voir. Ils sont en train de préparer des provisions, de préparer leur hibernation.
Je sais pas, mais en tout cas, regarde, comme ils sont habillés là, il fait 25 degrés, cette bande de poissons, 25 degrés, et pourtant, ils se l'écaillent. Je comprends pas.
Il y en a qui ont l'air de bien connaître les lieux. Par contre, là, il y en a un qui doit marquer son territoire ou... Je sais pas trop.
Oh, regardez, on dirait des girafes là-bas. Ils
Ah
font au moins
ouais.
2 mètres de haut.
Ah ouais,
Mais non,
ouais.
on sait bien que les girafes, ça n'existe pas, c'est un coup monté.
Elle est bonne.
J'ai pas compris.
Bon, comme on est tous réunis là, on va se faire une fondue?
Ah ouais.
Ah ouais.
Alors, rebonjour tout le monde. Donc, avec le groupe de jeunes, on vous a organisé un culte de retour du camp de ski pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Il y a pas mal de sketchs, pas très drôles en général, mais du coup, on voulait introduire avant la louange avec mon groupe deux sketchs plus sur comment ça s'est passé plutôt que. Enfin, ça ne va pas forcément être très rigolo, mais c'est juste pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc, je m'excuse d'avance, mais voilà.
Oh, j'ai tellement hâte du jeu de nuit là. T'as vu? T'as vu, c'était marqué bien s'habiller. Heureusement, moi, j'ai pris plein d'affaires chaudes, là.
Vu que c'est un jeu de nuit, il faut bien s'habiller chaudement. Hein. Du coup, t'as pris quoi?
J'ai pris plein d'affaires, mais dépêche-toi, là, on n'a pas le temps. Purée, on est encore en retard, comme d'hab.
Je crois qu'on a rendez-vous en bas.
Pendant ce temps-là. Eh, les filles, vous êtes super bien habillées. J'aime trop. Bravo. Merci. Merci. Vous voulez qu'on joue à quoi? Au blackjack, au poker? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors on va jouer à ça. En tout cas, super, vous avez bien compris le thème, parfait. Ouais, super.
Oh, c'est bon, on est prêts.
Vous faites quoi?
Pourquoi est-ce que vous êtes habillés comme ça?
Pour le jeu de nuit. Ils ont dit on devait bien s'habiller.
Oui, mais habiller, non, mais bien s'habiller, c'était pas ça.
Bah, c'était quoi, alors?
Bah, bien s'habiller, comme ça, classe. Rien compris. Rien compris.
Bon, bah, je vais mettre une chemise.
Bah ouais, du coup, faudrait...
Et comme vous le savez, ou peut-être pas, mais on aime beaucoup les jeux de société pendant nos après-soirées. Et on va vous donner une petite démo de comment ça se passe en général quand on fait un Time's Up.
Alors, c'est quelqu'un qui, comment dire ça, qui guidait le peuple d'Israël. Il a été confronté à un grand roi. Et, qu'est-ce que je peux dire? Il a séparé les eaux.
Purée, c'est l'autre là.
Oui.
Mais. J'ai sur le bout de la langue.
C'est Josué.
Oui, bravo.
Alors. Ok. C'est un gars. Il a fait des grands miracles. Ok, il était seul dans le désert pendant longtemps. Il a ressuscité un enfant.
Il a le même prénom que l'autre. Ouais, moi,
allez.
Ah, Élie.
Bravo. Ouais.
Alors, c'est une femme qui a mangé une pomme alors qu'elle devait pas. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Il y a un... Ah, c'est juste Blanche-Neige. Je sais pas qui c'est qui fait.
Ok. Alors, c'est... C'est dur celui-là. Je sais pas, c'est un berger, puis il aimait beaucoup le Seigneur.
Il n'y a pas d'autres indices.
Ah, mais oui, c'est Michel Crotenny.
Oui, bravo.
Bon, du coup, on a fini les descriptions. Maintenant, on va passer au mime.
Ah, mais oui.
savez, on essaie de vous représenter un peu le Kanski, donc on s'est dit qu'on allait vous faire aussi les chants qu'on a chantés au Kanski. Alors on est désolé, certains vous risquez de pas les connaître, mais voilà, on a essayé de choisir ceux qu'on préférait et ceux qui nous tiennent le plus à cœur. Alors je vous propose de vous lever. Alors pour le premier chant, je vous explique un peu. C'est un chant qui se fait fille-garçon. Donc on va le prendre une fois, on va chanter juste la partie des garçons. On le reprend une deuxième fois, on chante juste la partie des filles. Et puis après on chante, je pense qu'on va chanter deux fois tous ensemble. Voilà.
la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je veux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées.
Jésus, il est le Messie, il a ouvert pour nous. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient.
Je suis
tu es, merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Je vais te remettre la suite de ce culte, Seigneur, toute cette semaine qui va arriver. Amen.
Alors les enfants, vous pouvez descendre dans vos petits groupes. Je vais juste prier pour les enfants et les groupes. Seigneur, je te remercie pour tous ces enfants. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses les bénir et bénir aussi les moniteurs qui vont leur apporter quelque chose maintenant, que tu puisses ouvrir leur cœur à ta parole, Seigneur. Amen. Et on va passer à un autre sketch avant le message. Alors c'est un sketch à prendre au 5e degré et il est rempli de clichés.
« 9h50, le culte va bientôt commencer. » Il est 10h, le culte commence. Le culte débute par un temps de louange. Un temps de message a maintenant lieu. Nous voilà maintenant au moment de la Sainte Cène. Un temps d'offrande est proposé à l'église. Le culte est terminé.
Bah, moi, j'ai rien compris.
Voilà, alors maintenant je vais inviter, droit derrière ce sketch, Anthony. Donc c'est Anthony Geyser, c'était notre orateur au Kanski. Et Anthony travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc voilà, je vais juste prier avant ton message. Seigneur, je te remercie pour Anthony qui peut venir nous apporter un message encore aujourd'hui. Et ouais, je te prie d'ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Amen. Je te laisse. Tu veux te mettre un peu au milieu ?
Les feuilles de la louange.
Je pense que vous avez bien formé vos jeûnes parce que ce que je viens de faire là, j'ai dû le faire tous les soirs pendant le camp de ski. Chaque fois, ma petite installation, mon micro, ma Bible. Alors voilà, je vais ouvrir mon téléphone. Pour ceux qui m'ont vu dessus pendant la louange, ce n'était pas que je répondais à des messages. C'est que j'ai 2-3 notes pour moi là-dessus. Voilà, comme ça les choses seront dites. Voilà. Alors j'ai passé 8 jours... 8 jours avec ce camp de ski. Alors, c'était vraiment très sympa, on était là en famille, donc vous avez vu peut-être le reste de ma famille qui est là. Et puis c'était chouette, on était aussi avec 2 amis à nous qui aidaient à la cuisine, Joachim et Mélanie. Ils ne peuvent pas être là ce matin, ils auraient bien voulu, mais Joachim doit rendre des travaux pour l'Uni. Et il a pris son dimanche pour travailler. Vous auriez pu le mettre ce cliché là aussi. Alors, lors de toutes mes interventions du Rolkanski, j'ai commencé par une petite question. Et puis, je me suis dit, voilà, si déjà je reviens après le Kanski, on va commencer par cette question. Alors, je vous explique la question. J'avais environ 15 ans, et puis... Je rentre d'un camp de ski du J'y crois, c'est le camp de ski où j'allais, un gros camp de ski, on était, je crois, plus de 100, 120, comme ça. Et durant ce camp de ski, il y avait un orateur, et cet orateur, plusieurs fois, il a prié pour la guérison, et il y a eu des guérisons. Et moi, je rentre chez moi, en ayant vu des guérisons, et je retrouve, le premier soir, mes parents... qui ont un passé missionnaire, qui sont impliqués dans l'armée du salut, tout ça. Aujourd'hui, mon père a été pasteur et tout ça. Et avec eux, il y a mon oncle et ma tante qui sont aussi missionnaires au Brésil, voilà, des gens de foi, comme on dit. Et je rentre et ils me disent, on a commencé à aller. Donc vous savez, cette période-là, cette tranche-là, ce n'est pas forcément la période où avec les parents, il y a la meilleure communication ou les meilleures ententes. Voilà, ce n'était pas... Mon objectif en rentrant du camp n'était pas de parler avec mes parents, on va dire. Voilà. Alors, il me demande ce qui s'est passé, puis je leur dis, bon, allez, je le dis. Voilà, alors, il y a eu des guérisons pendant le camp, et j'ai vu quelqu'un, sa jambe s'est rallongée, mais incroyable. Et là, choix multiple, vous avez le choix. Quelle a été la réaction de mes parents? Alors, petit A, mon père a dit, Dieu a utilisé cela pour te parler, mon fils. Prends-en de la graine. Petit B, mon papa s'est levé, a regardé ma maman, il a dit, est-ce que tu voudrais partager ça à l'église dimanche? Petit C, mon papa, à nouveau, s'est levé et a dit, bon, le truc de la jambe qui se rallonge, tu sais, c'est un peu connu, il y a 2-3 trucs comme ça, voilà, alors écoute, tout doux avec les guérisons, ok? Ou, petit D, ma maman s'est levée et a dit, c'est super que tu aies pu vivre cela. Et à part ça, la neige. Alors, j'aimerais savoir qui est pour la réponse A. Dieu a utilisé cela pour te parler. Un petit geste de la main, ce n'est pas un appel, mais juste pour savoir qui est pour la réponse A. Personne pour la réponse A. Oui, quand même. 3 personnes, pas mal. Qui est pour la réponse B? On m'a demandé de partager cela. Eh, salut Justine. On m'a pas... Attends, je vais revenir dans mon message, là. Tac. Qui était pour partager cela dimanche à l'église? Excellent, ok, une petite équipe. C'est les jambes qui se rallongent, c'est connu. Ouais, 8, 9, ouais, petite 10. Et puis, ma maman, c'est super qu'il ait pu vivre cela, et la neige. Ok, alors, je vous donnerai la réponse à la fin. Alors, aujourd'hui, on va faire comme ça, on va prendre un passage de la Bible qui est assez connu dans Genèse 25. C'est l'histoire avec le droit d'aînesse, Ésaü, Isaac, Jacob, Rebecca, toute la famille là. Et puis, je vais juste sortir trois petits passages. Alors, je sais que les jeunes m'ont souvent demandé durant le camp, mais donne-nous voir des clés, des choses, voilà, des réponses, des, voilà, des choses claires qu'on peut mettre en pratique. Alors là, je vous avoue que moi, je vais plutôt un peu vous interpeller ce matin. Comme j'aime me laisser interpeller par la Bible, ça fait maintenant à peu près 10 ans que je suis appelé au travers de mon travail à prêcher, et puis un peu plus au travers de ce que je faisais avant au niveau d'un responsable groupe de jeunes. Et on va dire que plus j'avance dans la découverte de la Bible, et moins j'ai envie de dire que la Bible, elle dit de faire ça. Plus j'aime m'interpeller, plus j'aime dire, en fait, la Bible, elle nous interpelle, nous amène certaines fois des solutions, mais il y a certaines fois des histoires, on a tellement eu l'habitude de les entendre d'une certaine manière, que c'est devenu comme ça, puis plus personne ne peut prêcher dessus. Alors moi, j'aime bien me laisser interpeller, et j'aime bien interpeller les gens sans forcément donner toutes les réponses. On va commencer par le verset 23. Donc, chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc Rebecca s'approche de Dieu pour lui poser des questions parce qu'elle a l'impression que ça se passe spécialement dans son ventre là. Et Dieu lui parle, Dieu lui révèle quelque chose d'assez grand, je trouve quand même, d'assez précis. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Moi, j'aimerais savoir ça. Et vous savez, j'aime poser des questions, c'est parfois un peu dérangeant, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'elle va faire de ce passage-là? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un sait? Merci. Elle reçoit quelque chose de la part de Dieu et on ne voit aucune trace de Rebecca qui le partage. Elle garde ça pour elle. Alors, vous me demandez peut-être pourquoi je commence comme ça. Mais un des points que j'aime dans ce qu'on a pu traiter durant le camp de ski, on a parlé des relations. Et on a beaucoup parlé des relations au niveau famille, au niveau peut-être église, au niveau amitié, choses comme ça. Mais une des choses qui revient tout le temps dessus, c'est la communication. Et c'est une des plus grandes sources de problèmes. On est tous appelés à être en relation. On a un Dieu qui est en relation dans la Trinité et qui a envie d'être en relation avec nous. Et comment fonctionnent nos systèmes de communication, de relation dans nos familles ? Combien de personnes, et on a eu un petit sketch avant comme ça, le dimanche matin, avant d'arriver au culte, c'est un peu la guéguerre. Alors nous, on l'a vécu plein de fois. Vraiment plein de fois. Et surtout quand j'étais impliqué le dimanche matin. Pendant quelques années de ma vie, c'était vraiment quasiment tous les dimanches, j'avais quelque chose à faire. Soit moi, il y a eu même une période où moi j'étais en gros dans l'équipe pastorale, ma femme dans l'équipe de louanges, ou bien dans l'enfance, on était impliqués dans plein de choses. Et avant de partir au culte, c'était tellement tendu. Il fallait se dépêcher, il y avait ça qui n'était pas fait, il fallait se grouiller. Elle pensait que j'allais faire ça, mais moi je pensais qu'elle le ferait elle. Et puis on ne sait pas comment faire. Et puis on ne communique pas bien. Et puis finalement, il faut quand même partir parce que sinon on va être en retard. Et puis quand on arrive à l'église, voilà, il y avait l'image des petites ailes. Mais voilà, là maintenant, il faut que ça marche, quoi. Mais il y a plein d'endroits qui sont comme ça. Quand on part au travail, comment on fonctionne dans la famille, comment on communique. Et puis, s'il y a des choses qui sont un peu, si on peut dire comme ça, qui sont claires ou qui sont établies dans une famille ou quelqu'un a reçu, est-ce qu'on le partage? Est-ce qu'on le communique? Est-ce que des fois, le désir, peut-être, de responsable d'une église, qui a reçu une idée de où c'est qu'on voulait, on a l'impression que Dieu nous appelait dans une direction. Et je ne connais pas du tout votre contexte d'église, si jamais. Mais est-ce que c'est communiqué? Est-ce qu'on communique en famille le pourquoi du comment? Pourquoi on fait ça? Dans quel but? Pourquoi papa, il est à cheval sur ce sujet-là? Pourquoi il trouve que c'est très important? Pourquoi maman, c'est plutôt celui-là? Est-ce qu'on a un système de communication? Et autre chose, est-ce que ce que Dieu nous dit, on le partage autour de nous? Des petites choses, des plus grandes choses. J'ai vécu à un moment donné une étape dans ma vie où, au niveau professionnel, en tant que pasteur, j'ai perdu mon job. Et vous savez, ce n'est pas un truc courant. Et c'est suite à cela qu'en discutant avec mes parents, mon père m'a dit, mais tu sais, moi quand j'étais plus jeune, j'ai aussi eu une tension comme ça dans une église, j'ai aussi eu une difficulté, j'ai perdu mon job. Et moi je dis à mon père, mais pourquoi t'as attendu que moi j'aie une situation comme ça pour m'en parler? Peut-être simplement parce qu'il n'y avait pas pensé, parce qu'il ne pensait pas que c'était utile de me le partager, ou peut-être que ce n'est pas les choses qu'il mettait lui en premier en avant, ou peut-être aussi parce qu'avec le temps, on se rappelle des bonnes choses et on essaye un peu d'oublier les autres. Mais voilà, Rebecca, elle reçoit quelque chose de Dieu, quelque chose qui est clair, quelque chose qui est rempli d'informations pour la suite. Et on ne voit pas de trace qu'elle partage. Et j'ai l'impression, moi, que quand on connaît la suite de l'histoire, ça aurait peut-être aidé qu'elle en parle un peu. On va voir un petit peu plus loin un autre passage. C'est toujours au chapitre 25, mais on est au verset 28. Alors je vais prendre de le 27 pour le contexte. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. On arrive au 28, il y a écrit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier ». Et Rebecca aimait Jacob. Peut-être qu'il y a des clichés de grillades dans vos maisons. Ça peut découdre de là, c'est souvent comme ça. Hein. Monsieur fait la grillade et madame s'occupe de la salade et des légumes. Mais on arrive à un deuxième point de cette histoire que moi, ça m'interpelle constamment, ces histoires, c'est ce contexte familial. C'est qu'il y a une claire préférence de chacun des parents envers un des enfants. On a soulevé ce point pendant le camp de ski, pas sur ce passage-là, c'est sur un autre, mais sur cette question des relations et des jalousies, frères et sœurs. Et moi, personnellement, je suis un papa qui est encore jeune, on va dire, avec les enfants que j'ai. L'aîné aura bientôt 7 ans, si je ne me trompe pas. Faire gaffe toujours avec les âges. Voilà. Et je vois comme c'est un défi réellement pour moi d'être pas égal avec chacun de mes enfants, mais juste. Par exemple, j'aime bien dire à mes enfants qu'en fait, ils ont les trois une particularité. Timéa, la première, c'est l'aînée, c'est notre premier enfant. C'est tellement spécial, le premier enfant. On vit ça déjà qu'une seule fois. Et puis, il y a une sorte de force émotionnelle dans ce moment de l'accouchement, puis de la découverte de l'enfant, puis tout ça, c'est hyper fort. Ensuite, il y a Ben. Ben, c'est le garçon. Et c'était tout spécial, Ben, parce que c'était un garçon. Et moi, depuis toujours, quand j'imaginais avec des enfants, j'avais plein d'idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec des fils, mais je devais vraiment dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec des filles? Qu'est-ce qui serait cool? Et j'ai dû apprendre à développer des jeux avec mes filles, avec mon aîné, et de voir qu'ils n'ont pas les mêmes attentes chacun. Et voilà, il y en avait deux. Et après, il y a eu Talia, la petite dernière. Donc là... Non ! La dernière ! Mais c'est un réflexe, on est de la chouchou. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance comme ça. Et on doit se battre avec ça. Pourquoi le dernier serait le plus le chouchou ? Et c'est horrible pour l'aîné, souvent quand on discute, il dit « Ouais, mais moi je vais aller au lit à 8h, et puis lui il est 10h, il est toujours là, comme ça, voilà. » Alors nous on les met tous à 5h, comme ça on a de la marge. Mais cette idée d'une préférence, et moi ça me fait toujours bizarre quand je lis dans la Bible, parce que j'aimerais tellement que les gens de la Bible soient des modèles, que ça soit, je veux dire, c'est quand même, c'est pas n'importe qui qu'on parle là, je veux dire. Isaac, Jacob, Ésaü, c'est toute une famille, c'est pas juste comme ça une petite histoire, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire biblique, dans le schéma. Et ces gens-là avaient des préférences. On peut dire peut-être que Rebecca, elle sait pourquoi elle préfère un plutôt que l'autre, d'après ce qu'elle avait reçu avant. Mais là aussi, elle aurait pu le partager peut-être, ça aurait peut-être aidé dans cette situation d'exprimer pourquoi peut-être il y a quelque chose qui avait été donné pour un des enfants. On a ça des fois dans les familles avec des projets de certains enfants ou des chemins de vie et des choses qui doivent être exprimées, qu'on peut discuter. Alors vous allez dire, moi, je fais encore le malin, 6, 5, 3 ans, j'ai encore de la marge, moi. Mais je n'ai pas encore des ados et tout ça. Mais il y a des réels défis sur qu'est-ce qu'il y a avec un, qu'est-ce qu'il y a avec l'autre. Et un peu plus loin, on arrive au chapitre 27. Et on voit tout ce que Rebecca met en place pour que la bénédiction, elle arrive à Jacob. Et moi, j'aime bien me rappeler, me dire, mais au fait, c'est une femme qui, de manière un peu vicieuse comme ça, elle trompe toute l'histoire autour de son mari. Elle va tromper son mari, son fils, elle va tout mettre l'accent sur un, puis on voit ce que ça va créer après, dans l'histoire de la famille. Mais c'est des histoires familiales, tout ça. Et c'est des choses où on peut dire, voilà, mais c'est dans la Bible quand même. Mais nous, il y a des choses comme ça qui se passent dans nos familles. Comment on fonctionne? Quand quelqu'un veut quelque chose, quand un des deux parents a peut-être quelque chose qu'il a à cœur, comment c'est communiqué? Comment c'est discuté? Comment on fait des choix? Comment on décide ensemble? Et si on ouvre un peu ça par rapport à nos églises, comment on fonctionne dans nos choix en église? Est-ce que dans nos églises, on a aussi des préférences? Le sujet facile, des fois, c'est l'équipe de louange. Dans certaines équipes, il y a plusieurs équipes de louange, ou plusieurs leaders, ou plusieurs manières de jouer. Voilà. Est-ce que chacun a une chance? Certaines églises ont des notes très claires sur le dimanche. Et j'aime découvrir ça dans certaines églises. Certaines églises, c'est clair que le dimanche, c'est le jour d'évangélisation. Alors, on part d'un principe qu'à ce moment-là, on veut un principe de qualité. Donc, on veut la meilleure équipe de louange, le meilleur prédicateur, la manière, tout est au top. Dans d'autres églises, on dit non, le dimanche, c'est le jour où on se retrouve, où chacun peut apporter sa touche, où on partage, où on est plus dans quelque chose d'interne. Mais les choses sont dites. Et ça permet à chacun, en tout cas on essaye, on ne peut jamais contenter tout le monde, mais ça permet à chaque personne d'essayer de trouver un peu sa place, de savoir à quoi s'en tenir. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin? En passant une semaine avec cette équipe de jeunes et de discuter des relations, on a eu plein d'échanges super sympas. Et moi, j'ai découvert vraiment une équipe de jeunes, ben on le voit encore, c'est super ici, qui est assez authentique. Parce que les sketchs ou l'humour qu'il y a eu pendant le camp, ils ont l'audace et le courage et aussi la liberté de pouvoir le vivre ici. Et avoir la chance de pouvoir voir un groupe de jeunes dans un contexte bien à lui ou dans son église, je trouve que c'est une chance. D'avoir vu que les jeunes ont osé la même chose. Je crois que les jeunes que j'ai côtoyés durant cette semaine, ils ont un réel désir de servir. Ils ont un réel désir de s'interpeller. C'est des jeunes qui ont envie de creuser. Et vous savez, je suis en contact avec beaucoup de camps de ski. J'ai aussi fait moi pas mal de camps de ski. Et un groupe de jeunes, ou bien un camp de ski, où il y a 20 à 40 minutes de message selon la force de l'orateur à tenir le timing le soir. Et le lendemain, les jeunes par groupe en discutent entre 1 heure et 1 heure et demie. J'ai rarement vu. Alors, je ne suis pas allé dans les groupes. Mais il y a de quoi tchatcher, discuter. C'était intéressant d'avoir des retours des responsables qui étaient vraiment ouverts. Ah ben voilà, on a discuté de ça. Voilà, ce sujet, ça les interpelle. On a eu des bons temps sur ça. Ah ben c'est vrai que ce sujet. Et c'était vraiment, vraiment intéressant de voir le désir des responsables de ne pas être là pour juste, en gros, comme ça, mettre des couches de prédication. Mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui ressort de vous? Qu'est-ce que vous apprenez? Avec des questions, des choses comme ça. Alors voilà, vous avez des jeunes dans cette église, et à l'église de la colline, c'est juste, hein? Voilà. Déjà, qui arrivent à faire un camp de ski en 2 groupes de jeunes, moi je pense que c'est une réelle force et c'est un réel défi. J'ai vu des jeunes qui ont eu le courage d'aborder des sujets pas tout faciles aussi au niveau des relations. J'ai vu des jeunes qui se sont donnés. J'ai vu des jeunes qui ont un langage qui influence de manière positive mes enfants et ça c'est aussi un réel défi. Je fais encore des camps à la Ligue beaucoup et tout comme ça. Et quand ma famille vient, la question c'est toujours avec quel mot mes enfants vont repartir. Et je peux vous dire que mes enfants ne sont pas repartis avec des mots horribles de ce camp. Et on n'a même pas dû corriger encore le langage après. Donc ça, c'était pas mal. Merci. Mais il y a des jeunes qui font quelque chose. Dans une période aujourd'hui où tout le monde réfléchit à l'engagement, il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins de gens qui se donnent du temps et tout ça. Là, il y a vraiment des jeunes qui donnent du temps, qui font quelque chose et qui ont envie de faire quelque chose de bien. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a des jeunes qui s'investissent pour quelque chose. Alors j'aimerais vous tendre la perche vraiment, à la colline et à Mérin, vous dire, mais lâchez pas avec ces jeunes, investissez avec eux, offrez-leur aussi d'où l'ouverture de votre vécu, de vos désirs au niveau de l'Église, de votre parcours, de ce que vous avez vécu, partagez ça avec les jeunes, pas en les imposant, intéressez-vous à eux, prenez du temps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp, ne restez pas juste sur le petit retour qu'on a là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Sur quoi vous restez? Et ça vous a créé des choses au niveau où vous avez envie d'en discuter. Mais ouvrez ça à nos jeunes. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de jeunes. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de leads comme ça. On faisait plein de choses, d'activités. Et on a vécu des fois des moments chouettes avec l'église. Quand on rentrait de camp, on a aussi vécu des moments difficiles. Où des fois, on a eu des gens qui nous disaient que c'était pas bien ce qu'on faisait. Ça ne fait pas se faire comme ça et tout ça. Je pense que le fond était bon de ce qui nous était transmis. Parce que voilà, on a à apprendre. Mais la manière n'était pas bonne. Et moi, je vous encourage à ouvrir, à permettre d'être transparent dans ce que vous vivez, dans le vécu de l'Église, dans le vécu de vos familles, dans ce que vous pouvez vivre, dans ce que vous projetez sur les jeunes. Si vous avez reçu des choses pour les jeunes, vous avez reçu des choses pour l'Église, partagez-le aux jeunes. Gardez pas ça pour les petits comités d'église. Partagez-le aux jeunes, aux responsables du groupe de jeunes, aux participants. Demandez à aller une soirée dans le groupe de jeunes pour pouvoir partager un peu des choses de l'église. Et surtout, aimez chacun d'eux. Pas seulement ceux qui sortent du lot parce qu'ils ont des compétences qui sont tellement pratiques à pouvoir utiliser, à mettre en valeur dans l'église. Mais aimez aussi ceux qui sont plus discrets, qu'on voit moins. Ceux qui sont là, toujours. Mais qu'on ne voit pas souvent. Pensez à ceux-là, aimez ceux-là, ayez des attentions pour ceux-ci. Parce que ça change une jeunesse. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont intéressés à moi. Aussi quand on me voyait, mais pas pour des choses positives. Et j'aimerais vraiment vous encourager que vous puissiez être cette communauté-là pour vos jeunes. J'arrive au bout de mon temps. Je vous encourage à relire cette histoire d'Isaac et de Rebecca et de leurs enfants, découvrir quelles sont les bonnes choses au niveau des relations qu'ils ont mises en place, quelles sont les mauvaises choses. Quand on voit la fin de l'histoire, on se dit « Ah, c'est bon, à la fin, ils s'entendaient de nouveau bien, les deux frères. » Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre? Qu'est-ce que ça a créé, ces complications de l'Église? Et on voit que, dans la famille, pardon. Et moi, je crois qu'on peut vivre les mêmes complications. Dieu peut restaurer. Dieu peut venir avec sa puissance, son amour, resserrer des liens, tout ça. Mais qu'on puisse, nous, ne pas forcer l'œuvre de Dieu comme ça a été fait. Mais si Dieu promet quelque chose, Dieu le donne. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. C'est rarement comme nous on aimerait. Mais Dieu s'occupe de ça. Et qu'on puisse rester dans cette confiance et son amour. Et qu'on puisse être des ambassadeurs de son royaume ici sur terre pour l'extérieur de l'Église, pour l'intérieur et pour toute génération. Alors voilà, je vous ai posé une question au début, je vais vous donner la réponse. Quand je suis rentré du camp de ski, mon père, avec toute sa sagesse, a voulu m'interpeller positivement sur la guérison. Et il a mal commencé ou formulé la chose. Et en commençant en disant, tu sais, des jambes qui se rallongent, voilà, ça arrive, il existe certains trucs. Et ça a créé un énorme froid, clash. Moi, ça m'a hyper déçu. J'avais l'impression que j'arrivais avec quelque chose, que ça allait plaire à mes parents. Voilà, le jeune qui n'est pas du tout intéressé par l'Église et la foi rentre d'un camp de ski, il veut partager un peu ce qu'il a vécu, il ose quelque chose. Il reprend une sorte de, pas de baffe, mais une sorte de mur froid en face de lui. En plus, il y avait 4 personnes qui étaient un peu pour moi des gens un peu renommés dans le ministère, qui devaient plutôt être fous de joie à l'entendre que j'ai vécu. Et il n'y a eu rien. Et je pense que cet épisode-là a repoussé de, je pense bien une année ou deux, un réel choix avec Dieu. Par contre, ça m'a permis d'un peu mûrir. Ça m'a permis de plus tard discuter avec mon père et de comprendre que lui, son désir, c'était juste de me dire, mais reste pas juste sûr, voilà, tu pries, c'est guéri. Il voulait aller plus loin dans sa réflexion, mais comme il a commencé, ça n'a pas permis la suite. Et il y avait vraiment quelque chose que je pouvais apprendre ce jour-là, et ça m'a juste refroidi. Et j'aimerais vous dire, par là, le sujet de la guérison, ce n'est pas le sujet que je veux aborder, mais j'aimerais vous dire, quand des jeunes vieillards qui ont vécu, quand des jeunes rentrent d'un event, ou bien d'un camp de ski, ou d'une soirée, où ils ont entendu quelque chose, ils ont vu quelque chose sur Internet, une vidéo, même si peut-être vous avez l'impression que c'est un peu moyen ce qu'ils ont entendu, mais ouvrez-leur une porte, et allez-y avec douceur et amour, parce que de là peut découler beaucoup de choses. Je m'entends très bien avec mon père. On a même travaillé ensemble comme pasteur. Aujourd'hui, c'est un de mes modèles les plus forts dans ma vie. On a des très bonnes relations familiales. Plein de choses, on peut les régler. C'est vraiment super. Et moi, je vous encourage vraiment à être ces ambassadeurs. Et je vais terminer sur ça, vraiment. Soyez ambassadeurs aussi pour vos jeunes et aussi à l'intérieur de nos murs. Voilà. Merci pour votre attention.
Alors, on va passer à la Sainte Cène.
Alors, je vais lire l'institution de la Cène dans Luc 22, les versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi.
Alors, je vais juste prier pour remettre la scène. Seigneur, je te remercie parce que tu nous donnes l'occasion de partager comme tu as partagé ton amour pour nous en te donnant sur la croix. Et, je voudrais vraiment te remercier pour cet acte et qu'on puisse, tu puisses bénir ce pain et ce vin ce matin. Amen.
On va passer à l'offrande.
Seigneur, je te remercie pour ta générosité qui nous permet d'être généreux en retour. Je te prie que tu puisses bénir ces dons, Seigneur, et qu'ils puissent être utilisés pour ta gloire. Amen.
Bonjour. Ah, voilà. Donc ça va être le temps des annonces, il est un peu tard, donc ceux qui ont des obligations ou des choses plus intéressantes à écouter, vous pouvez seulement y aller. Du coup, j'invite juste les responsables et Coresp à monter, parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Du coup, on voulait juste se représenter à l'église, parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui allaient vers Michaela pour lui poser plein de questions, mais elle n'est plus responsable, malheureusement. bon, bah, du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Gaël Peterman, je suis responsable au groupe de jeunes et puis je viens de l'Assemblée chrétienne des Trois-Rois à Lausanne.
Non, je viens de l'église de Mérin.
Alors, je répète, je viens de l'Assemblée chrétienne des Trois-Rois à Lausanne.
Je m'appelle Cécile Meyer et je viens de cette église et je suis responsable au groupe de jeunes.
Moi, c'est Aurélie et puis voilà, je suis là depuis longtemps, donc vous me connaissez.
Je m'appelle Elisa Kila, j'étais co-responsable jusqu'en janvier et maintenant je suis responsable et je viens de cette église aussi.
Merci. Je m'appelle Rachel Meyer et je suis responsable et je viens de cette église.
Je m'appelle Alexia et je suis trop petite
et je viens de cette église.
Je m'appelle Ludovic et je suis devenu co-resp il n'y a pas longtemps. Et je viens de cette église.
Ah, merci. Du coup, j'appelle juste Elisabeth pour vous y donner les annonces. Merci.
Juste après la bénédiction, si jamais vous pouvez partir, vous lever, mais il y aura des photos du camp qui seront projetées, si jamais.
Alors tout d'abord, j'aimerais remercier les jeunes et Anthony Geyser de nous avoir partagé ce qu'ils ont vécu pendant le camp. C'est vrai que c'est un privilège pour une église d'avoir un groupe de jeunes qui participent à la vie de l'église, qui nous fait vivre qui nous partage ce qu'ils vivent. Et comme nous l'a dit Anthony, à nous de garder le contact, de parler avec les jeunes et de sentir qu'ils font partie de l'Église et que c'est vraiment intergénération. Donc c'est vraiment, merci beaucoup d'avoir animé ce culte. Et Claude Parmigoni aimerait prier pour les jeunes.
Tu viens de la colline, c'est bien juste?
Ouais, je viens de la colline, c'est bien donc, juste.
Comme une partie
du groupe
des jeunes.
Je suis descendu de ma colline.
Alors Seigneur, nous voulons prier pour remettre vraiment tous nos jeunes, de nos groupes de jeunes, entre ses mains. Prions. Ô Seigneur Jésus, quelle pierre précieuse tu as mis dans nos églises. Et Seigneur, nous voulons être les écrins qui les accueillent. Et Seigneur, qui les met en valeur. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te les remettre. Merci pour, tu les as rencontrés, tu leur as donné ton amour, tu t'es révélé à eux. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois un guide dans leur vie d'école, dans leur vie de formation. Tu puisses être une lampe à leurs pieds et être un confident et un copain et vraiment un ami tout au fond de leur cœur. Alors Seigneur Jésus, bénis-les tous Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Seigneur, tu les vois, moi, ils m'hallucinent. Ils nous poussent en avant, cette équipe. Je vois que c'est pareil ici qu'à la colline. Ils nous poussent en avant, ils posent des questions, ils sont bouillants. Et... Seigneur, je te prie que personne ne vienne tuer cette foi qu'ils ont. Que nos églises ne viennent pas tuer la foi qu'ils ont, ces jeunes. Qu'ils, au contraire, qu'ils soient là et que ce feu brûle derrière nous, devant nous, autour de nous, parce que c'est juste magnifique. Merci beaucoup parce qu'ils sont un cadeau énorme. Et c'est l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église d'aujourd'hui, elle est là, elle bouge, elle est en route. Et j'aimerais juste te remercier pour ça. Amen.
Amen. Amen.
Merci.
Merci Claude.
Le groupe de recherche d'un pasteur a une communication à faire. Je donne la parole à Xavier Schmitt qui va faire l'annonce.
Okay. Bonjour tout le monde. J'ai demandé à Catherine de m'accompagner parce que, comme ça, on a un peu sa leader dans le groupe de recherche de pasteurs. Pour mémoire, si vous n'êtes pas encore tout à fait au courant de ce qui se passe, Roger Sewell arrive, notre pasteur en titre arrive à la retraite l'été prochain. Nous avons publié avant-hier une annonce qui se trouve sur le site internet de notre église pour une ouverture pour un poste pastoral à plein temps. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? La première chose, c'est prier, parce qu'on ne veut pas y aller avec un processus administratif de sélection. On veut vraiment écouter la voix du Seigneur, puis on veut vraiment avoir le serviteur qu'il a prévu dans notre église ici. Donc, prions ensemble, priez pour qu'on reçoive les candidatures que le Seigneur dirige, pour qu'il nous inspire, pour que le groupe soit inspiré dans ses démarches, dans tout ce qu'il entreprend, dans ses décisions. Et puis, prions aussi pour qu'on puisse vivre cette attente de manière sereine, dans la confiance. Je vais me retourner parce que ce sera plus facile pour lire le truc. Sur le prochain slide, on a quelques infos. Comme je vous le disais, ça vient de paraître. Donc, si vous allez sur emr1.com, il y a une petite ligne, vous allez trouver toutes les informations relatives à cette ouverture de poste. La deuxième ligne, s'il te plaît, c'est que si vous avez des questions ou des réflexions, on entre maintenant dans une partie super importante. C'est là où on va recevoir des dossiers de candidature. Si vous avez des souhaits, quelque chose qui vous tient à cœur, mais n'hésitez pas, on ne veut pas voler solo, on veut être à l'écoute de chacun. Donc, pour mémoire, dans le groupe Recherche Pasteur, il y a Catherine Meyer, il y a André Dufour, il y a Sylvain Wenger, il y a Sylvain Félix, il y a Claude Parnigoni, Bernard Bailly, merci beaucoup, et moi, ça fait 7, voilà. Donc, n'hésitez pas, on veut vraiment être à votre service, on ne veut pas être une équipe qui décide dans son coin, et puis un beau jour, on vous a trouvé un candidat et c'est terminé. On a vraiment à cœur de faire ça ensemble. La ligne suivante, s'il te plaît. Ce qu'on a eu comme source d'orientation, donc vous avez eu un sondage ici dans l'église, par ailleurs. On a interviewé les pasteurs actuels, on a interviewé le conseil qui nous a mandaté, du reste. Et puis, on a rencontré aussi la commission des ministères, c'est là où on en est. On a super à cœur, les jeunes, on vous aime très fort, puis on a super à cœur que vous soyez partie prenante dans ce processus. Si vous lisez bien l'annonce, il y a dans ce qu'on demande aux futurs pasteurs, c'est une sensibilité particulière pour les jeunes et pour les familles qui sont, conseil et groupe de recherche de pasteurs Dixit, une priorité pour l'Église ici. Donc la dernière ligne, c'est une invitation pour les jeunes, pour les familles, que vous ayez enfants ou pas enfants, si vous êtes dans cette tranche d'âge. On vous invite, c'est dimanche 26 février, vous pouvez sortir les téléphones pour noter la date. Et le 26 février, on vous propose de rester après le culte ensemble. Pourquoi? Parce que comme il disait mon copain Daniel dans sa prière, vous n'êtes pas l'église de demain puis nous celle d'aujourd'hui, nous on est celle d'hier, vous êtes celle d'aujourd'hui. Donc on aimerait vraiment que vous soyez partie prenante et puis avant de nous lancer dans cette dans ce processus de « oui, on va analyser si ça correspond à nos attentes », on aimerait vraiment avoir votre avis aux familles et aux jeunes. Cette tranche d'âge-là, on aimerait bien vous rencontrer. Donc, on vous invite à manger. Merci Sylvain qui se colle à la cuisine, encore une fois de plus. Donc, ça va être bon. Et puis, on fait une table ronde. Et puis, on aimerait prendre en compte, nous imprégner avant de continuer de votre sensibilité, de vos attentes, etc. Donc, on vous attend le 26 février, si vous êtes dans le groupe de jeunes. Si vous êtes une famille qui avait des enfants à l'école du dimanche ou bien pas d'enfants dans cette tranche d'âge-là, s'il vous plaît. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Catherine? J'ai déjà trop parlé. Merci beaucoup. Bon dimanche.
Alors, pour l'agenda encore, samedi prochain, donc le 28 janvier à 17h dans les locaux, il y aura une rencontre pour explorer les engagements futurs de l'EM en faveur des réfugiés. Donc, on vous avait déjà dit que le groupe, le temps libre était un peu en stand-by, en pause. Et maintenant, les trois dames qui s'occupent, qui ont pris ça en main, Dominique Sowell, Eliane Fund et Christine Strubin, aimeraient savoir un petit peu comment continuer, d'autant plus avec le départ de Dominique Sowell qui se rapproche. Elles ont rencontré l'assistante sociale du centre de Feuillas pour savoir un petit peu quels besoins il y aurait. Il y en a beaucoup. Une bonne partie de ces réfugiés sont analphabètes, donc ce serait important qu'ils aient des cours de français, des aides aussi pour ce qui est administratif, quand ils reçoivent des lettres, pour les aider à comprendre ce qui est marqué dans ces lettres, répondre. Mais ces dames aimeraient vraiment que ce soit une activité de l'Église. Et comme il y avait déjà eu un sondage, il n'y avait pas simplement de personnes qui étaient intéressées. Et maintenant, ce serait le moment de se rencontrer, de voir donc, toutes les personnes qui se sentent concernées par cette problématique des réfugiés, qui sont appelées à faire quelque chose. Alors venez samedi. Et puis là, il y aura discussion et voir de quelle manière il y a enseigné le français, de manière le Wycliffe. Donc, on vous expliquera ce que c'est. Pour que ça soit vraiment un groupe qui soit plus important et qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Si vous êtes intéressé, mais que vous ne pouvez pas venir, signalez-le à Eliane Foun, qui est là aujourd'hui, et puis elle pourra prévoir avec elle, parler. Donc, samedi 28 à 17h dans les locaux. Alors, tous ceux qui sont intéressés, venez. Dimanche prochain, 29, il y aura culte avec Jean-Jacques Mélan, suivi d'un apéritif. Il n'est pas là, j'ose le dire, c'est que Roger aura 65 ans. Et puis, voilà, il y aura un apéritif. Je vous invite. Le dimanche 5 février, c'est le culte du réseau évangélique à Palexpo. Il n'y aura pas de culte ici, donc pas de repas canadien non plus. Il y a des papillons à la sortie. Ça dure à peu près, on peut participer à peu près toute la journée. Hein. De 10h30, il y a des cultes. Après, à 12h30, il y a autre chose. Et de 15h à 17h encore. Donc, si vous voulez participer, il y a des tranches horaires ou toute la journée. Donc, pas de culte ici. On peut déjà vous annoncer que le prochain colloque aura lieu le vendredi 10 mars. Les jeunes, vous pouvez aussi noter. Donc, vous aurez toutes les informations plus tard, mais agendez déjà la date. Les études bibliques qui avaient été demandées, ils sont plutôt des ateliers bibliques, ça se met en place. C'est Claude qui va donner l'information.
Comment vous faites pour enregistrer tout ça? Je vous dis simplement, quelques-uns d'entre vous ont souhaité avoir des ateliers bibliques. On met ça sur pied de temps en temps, un mardi soir, à partir de 19h30. Mais ce n'est pas des prises de tête, c'est une contribution. Après trois questions en petit groupe, on remet ensemble et on essaie de réfléchir qu'est-ce que ça change. Ça va? Atelier biblique. Et on s'est dit, on commence avec un thème gentil comme les activités des humains, quel que soit le métier. On ne met pas métier, on met activité pour tous ceux qui n'ont pas de métier, mais qui s'occupent de famille, soient aussi concernés. La première rencontre aura lieu un mardi soir, le 7 février. C'est bientôt, c'est pour ça que je vous le dis comme ça, oralement. Un flyer sera mis à disposition dimanche, bientôt, enfin, dès que possible. Hein? Voilà, je me permets autre chose. C'est le Saint-Esprit qui joint quelqu'un à l'Église, d'accord? L'Église d'aujourd'hui, c'est toute les tranches d'âge et aucun des jeunes n'est de trop. Personne n'est de trop. Ça veut dire quoi? On va se donner des moyens. Et un des moyens, quand on n'est pas des familles d'ici, c'est qu'on ne connaît pas les autres. Et un des moyens, c'est de mettre à disposition un classeur avec des photos à peu près récentes. Alors, vous savez quoi? Vous savez qu'à un certain âge, on devient oublieux, hein, les jeunes, vous savez? Alors, je vous le dis si vous ne le savez pas. Alors, je vous demande à vous, les jeunes, de m'envoyer des photos de vos familles. Vous, c'est facile. Vous avez smartphone et puis c'est vite fait. Hein? Juste, vous mettez la famille comme ça à peu près en ordre. Vous prenez une photo, mais vous êtes dessus, et vous me l'envoyez. Mon adresse mail se trouve sous le mémo. Non, ça s'appelle mémo. Oui. Vous voulez bien ? Je vous en supplie. Faites-le. J'ai besoin de ça pour faire quelque chose qui va servir aux gens de l'extérieur et se dire « Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle celui-là. » Ça va ? Merci. Je compte sur vous.
Dernière information, c'est plutôt... On vous a dit dimanche passé que Marguerite Félix serait opérée cette semaine, mais l'opération est reportée, il y a d'autres examens à faire et la décision sera prise, je pense, cette semaine si l'opération aura lieu ou pas. Donc, pour l'instant, elle n'est pas opérée, mais on serait tenu au courant par la chaîne de prière si l'opération a lieu et quand. Et une autre nouvelle, Nino Locarcio a dû être hospitalisé. Il doit subir toutes sortes d'examens. Alors, on peut penser à Nino, à Brigitte, et à Marguerite, Félix et à toute sa famille, parce que ce n'est pas forcément facile dans ces moments, ces situations pas très faciles. Alors, pensons à eux.
Alors, c'est à moi... la chance de faire la bénédiction. Alors, je crois que vous avez une habitude de vous lever, alors levez-vous. Seigneur, je te remercie pour cette assemblée, Seigneur, pour ce qui a été vécu ce matin, ce qui a été partagé. Seigneur, je te les remets dans leur semaine, Seigneur, dans leur journée, Seigneur. Qu'ils puissent vivre dans ta présence, Seigneur. Qu'ils puissent partager ta présence, Seigneur. Je te remercie pour... ce que j'ai pu vivre avec une partie de cette communauté, ce qu'on a pu vivre en famille avec une partie de cette communauté. Je te demande, Seigneur, de continuer d'offrir des possibilités, Seigneur. Réponds à cette communauté dans ses demandes, dans ses besoins, Seigneur, au niveau pastoral aussi. Seigneur, je te les remets dans cette semaine, que tu puisses les bénir, les accompagner, être avec chacun d'eux, dans leur joie, dans leurs difficultés, dans leur tristesse, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur, sois leur repère, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour, Seigneur, et tu vas accompagner chacun de nous, Seigneur. Dans chacune de nos journées, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis et un tout bon dimanche. Je n'ai pas l'habitude de faire ça quand c'est pas...